Ainsi, le 26 août, toujours 1942, son ambassadeur auprès du gouvernement en exil, disons de plusieurs gouvernements en exil, Anthony Drexel Biddle, dont je parle déjà dans mon livre sur les nuits cristal, lui adressa un rapport de 8 pages, rédigé par Ernest Fischer, membre du Conseil d'État tchécoslovaque. Biddle, ami personnel du président Roosevelt, y attachait une telle importance qu'il envoya une copie directement à la Maison-Blanche. Dans ce rapport de 8 pages, dont j'ai vu des extraits, il y a une description détaillée de tout ce qui se passe à l'époque dans les régions de l'Est. Et Fischer, qui n'est pas un naïf, ajoute ceci: cette guerre n'est pas faite seulement avec des bombes et des canons. Et le caractère du monde à venir ne sera pas déterminé uniquement par le sort des batailles. C'est la victoire de la morale qui est en jeu. Une fois de plus, nous nous trouvons confrontés avec une telle situation où nous risquons de commettre de graves péchés d'omission. Malgré tout, en novembre 1942, je dis toujours d'ailleurs que, pour un repère, rappelez-vous, novembre 1942, les Alliés enclenchent l'opération Torche, débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord. Le 9 novembre 1942. C'est à ce moment-là précis, souvenez-vous, que la France perd sa zone libre, le 11 novembre. Donc en novembre 1942, Cordell Hull et Sumner Wells, Cordell Hull est le secrétaire d'État, donc le Kissinger de l'époque, qui est probablement le poste le plus important. Au département d'État, Franklin Roosevelt à la Maison-Blanche était pleinement informé des massacres nazis. D'ailleurs, à qui voudrait-on faire croire qu'à cette époque, donc, presque 10 ans après l'accession d'Hitler au pouvoir, on ignorait Dachau, Buchenwald et autres camps de concentration. Et que certainement qu'on n'y faisait pas de la cuisine, au beurre. Donc tout le monde était au courant. Il y avait donc là une énorme hypocrisie. Reste à savoir pourquoi. Stephen Weiss écrivit alors à Roosevelt, le 2 décembre 1942, décrété jour de deuil par et pour tous les juifs du monde entier. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le 8 décembre, donc quelques jours plus tard, Roosevelt reçut une délégation des représentants des organisations juives des États-Unis. La délégation remit à Roosevelt un document de 24 pages intitulé « Blueprint for Extermination », une analyse pays par pays de cette extermination. Le président déclara qu'il était bouleversé d'apprendre que 2 millions de juifs avaient déjà péri. Il assura ses visiteurs que les États-Unis et leurs alliés prendraient toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces crimes et sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Weiss souligna qu'il ne doutait pas de la victoire des alliés. La question était de savoir s'il y aurait des survivants. Le 17 décembre de la même année, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'URSS et les gouvernements en exil publièrent leur première déclaration conjointe condamnant l'extermination des Juifs par les nazis. Je pourrais presque dire, comme on dit en hybride, gamarnou. Pourtant, il fallait bien continuer. La question qu'on se peut se poser concerne, premièrement, la personnalité de Roosevelt. Le sujet de ce soir, c'est le judaïsme américain face à l'Holocauste. Mais on ne peut pas parler des juifs américains, de ceux qui se sont battus pour sauver leurs frères d'Europe, et vraiment battus. Et l'administration américaine qui jouait le rôle d'un mur sur lequel les questions, les rapports du Congrès juif mondial, de l'Amnée Brite, etc., rebondissaient sans arrêt. Il ne faut pas oublier qu'en 1942, nous sommes à moins de 3 ans de la fin de la guerre. Alors, qui était Roosevelt? Alors, j'ai cherché parmi ceux qui l'avaient approché et qui n'étaient pas forcément des familiers, un trait de caractère, un petit peu comme on fait avec la bruyère. Eh bien, Roosevelt, vous savez, Franklin Roosevelt était le neveu de Theodore Roosevelt, qui fut président des États-Unis au début du siècle, et qui a été d'ailleurs président des États-Unis alors qu'il était vice-président, tout simplement parce que, en 1901, le président McKinley, vous rappelez, avait été assassiné, déjà. Eh bien, Roosevelt avait été considéré comme ayant issu d'une famille aristocratique et était considéré comme un humaniste, réellement humain, homme d'une grande bonté, doué d'une sympathie naturelle pour tous les êtres persécutés. Il était tout d'abord profondément bouleversé par la tragédie juive. Il comptait énormément d'amis juifs. Et je crois que c'est vrai. Ce tableau de Roosevelt est vrai. Je crois que ceux qui se rappellent l'admirable femme de Franklin Roosevelt, comment s'appelait Eleanor Roosevelt, qui venait visiter les camps d'enfants juifs en France ou ailleurs, vraiment, je crois qu'on n'a pas à se tromper là-dessus, Roosevelt était quelqu'un. C'était un infirme. Mais je ferai peut-être quelques remarques. Premièrement, il était à près de 2 ans et demi de sa mort. Il était au pouvoir depuis trop longtemps. C'est-à-dire que dans la Constitution des États-Unis, un président ne peut pas être au pouvoir plus de deux mandats. Mais à cause de la guerre, il avait été déjà élu en 32, 36, 40, juste encore en 44. C'était beaucoup trop. Il était un homme usé administrativement. Et il n'était pas l'homme de la situation, on va le montrer tout à l'heure. Et puis il y a la personnalité de Cordell Hull. Cordell Hull, on a dit de lui que c'était un antisémite. Mais à chaque fois on répondait, c'est pas possible, sa femme était juive. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout de même quelque chose qui freinait chez Cordell Hull. Tous les rapports. Je vais faire la petite différence. Roosevelt était un homme politique. Cordell Hull, non. C'était un fonctionnaire. Et c'est ça qui avait de terrible. On cherchait à sauver des hommes. Mais on discutait avec des papiers. Il faudra attendre longtemps pour que se réalise le sauvetage réel de ceux qu'on pouvait encore sauver. Je donnerai d'ailleurs quelques exemples tout à l'heure. Mais il faut vous dire à quel point les juifs qui étaient en haut poste ne pouvaient pas supporter Cordell Hull, cette manière qu'il avait de freiner l'immigration aux États-Unis. C'était insupportable. Nous avions tous de la famille en Europe. Nous avions tous, comment dirais-je, des nouvelles, de mauvaises nouvelles d'Europe. Nous voulions faire quelque chose pour ces juifs qui étaient nos frères. Et on était barrés uniquement du point de vue administratif. Alors c'était insupportable. Et c'était tellement insupportable qu'un jour, l'un des grands bonhommes de ce judaïsme américain, le ministre des Finances, qu'on appelait le ministre du Trésor, secrétaire au Trésor, Morgenthau, je parlais tout à l'heure de lui, vous savez, c'est Morgenthau qui a proposé à la fin de la guerre de raser l'Allemagne. Eh bien, Morgenthau en a eu assez. Et il a publié un rapport à Roosevelt, personnel au président, sur les tentatives, l'empêchement, comment dirais-je, le comportement du secrétariat d'État face à la question juive. Et Roosevelt le lut lorsque Morgenthau et d'autres se rendirent donc à la Maison-Blanche le dimanche 16 janvier 1944, vous vous rendez compte comme c'est tard, le ministre des Finances remit au président son rapport personnel sur la question. Roosevelt le lut rapidement en leur présence. La nouvelle version commençait par une attaque directe, dont la passion compensait le style. Vous êtes probablement, Morgenthau parle au président des États-Unis, vous êtes probablement moins au courant que moi du fait que certains fonctionnaires du département d'État, accusés de pratiquer délibérément cette politique, ont constamment omis de prendre aucune mesure efficace pour empêcher l'extermination des Juifs dans les régions d'Europe dominées par les nazis. On croirait entendre une attaque contre les nazis d'ailleurs. Bien qu'ils aient usé de subterfuges, tels que la création d'organisations intergouvernementales pour étudier le problème des réfugiés dans son ensemble, donnant à espérer que des mesures concrètes seraient prises, ils n'ont rien accompli en réalité. que l'on considère cette incurie comme une attitude délibérée de la part des responsables américains, ou comme le résultat de leur incompétence, importe peu à mon point de vue. Toutefois, un nombre croissant de personnalités et d'organisations ont cessé de considérer notre inaction comme une simple incompétence de la part des fonctionnaires du département d'État chargés de résoudre ce problème. Ils estiment que leur comportement est dû à l'antisémitisme. L'attaque est frontale, comme on dirait. Ils estiment que leur comportement est dû à l'antisémitisme, et à tort ou à raison. Il n'en faudrait pas beaucoup plus pour étayer leurs soupçons et faire éclater un scandale retentissant. Je ne vais pas vous lire tout le rapport, mais voyez le ton. Ce rapport est très intéressant. Il mérite d'être lu en entier, d'ailleurs. Et à ce point que même le Congrès américain a dû entendre dans certaines commissions spéciales certains fonctionnaires du département d'État, tellement leur comportement était douteux. Je vais donner des exemples de l'attitude de Cordell Hull. Le 16 décembre 1941, 769 réfugiés dans le port roumain de Constanza. Sur le Struma, c'est un bateau. Un bateau qui, en vérité, n'aurait pas dû contenir plus de 100 passagers. La coque s'enfonce, c'est un vieux bateau, il n'ira pas loin. Pourtant, il quitte Constanza, il se dirige vers Haïfa. La distance n'est pas énorme. Seulement, il tombe en panne au large d'Istanbul. On le laisse 10 semaines à l'ancre. C'est un espèce de pré-exodus. On ne veut pas laisser débarquer les passagers. Du moins, les laisser embarquer correctement vers Haïfa, vers la Palestine. Pourquoi ? Parce que les Turcs exigent qu'ils aient d'abord des visas d'entrée. Or, vous savez qu'à cette époque, le livre blanc britannique interdit justement l'immigration vers ce qu'on appelle toujours, depuis longtemps, la terre promise. Le 24 février 1942, les Turcs firent sortir le navire en le tirant pendant quelques milles, quelques milles marins. On raconte que tous les passagers brandissaient des banderoles avec « Sauvez-nous ». À 6 milles du rivage, le Struma coula. On n'a jamais su s'il est tombé sur une mine. Il a coulé. 70 enfants, 269 femmes et 428 hommes se noyèrent. Deux passagers seulement gagnèrent le rivage à la nage. C'était l'indifférence. Le secrétaire aux colonies britanniques, à l'époque, a dit qu'il ne voulait pas se laisser impressionner par ces tentatives de briser le blocus vers la Palestine. Pourquoi pas le dire ? Le secrétaire aux colonies, à l'époque, était le futur Premier ministre Harold Macmillan. On ne voulait pas des Juifs. Déjà, quelque temps plus tôt, en 1938, comme a dit d'ailleurs Morgento, on a voulu donner le change, faire croire qu'on s'intéressait aux Juifs. Alors Roosevelt, en juillet 1938, a parachuté une conférence à Évian. En juillet, je suis presque tenté de dire, en plein Tour de France, du 5 au 14 juillet, 15 juillet. Et là, on essayait de savoir, avec ce comité intergouvernemental des réfugiés, ce qu'on allait faire de tous les réfugiés. Il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait ceux qui fuyaient Franco, ceux qui fuyaient Mussolini, ceux qui fuyaient Horthy en Hongrie. Alors il fallait bien leur trouver une terre d'asile à tout cela. Non, comme on l'a dit d'ailleurs Ita Talman et moi dans notre livre La Nuit Cristal, on a publié un passage de de l'intervention du délégué australien, le lieutenant-colonel White, quand on proposait aux Australiens de prendre des Juifs, le lieutenant-colonel White a dit « faut y croire, il faut le lire pour le croire. Il n'y a pas de problème antisémitique chez nous, nous ne voulons pas en créer un. Donc, gardez vos Juifs. » Et le président de la commission à l'époque du comité était Myron Taylor, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, le représentant américain au Vatican. Donc, on ne voulait pas des Juifs. Cette tentative, à gauche, à droite, pour essayer de les sauver, des commissions comme Eddie Morgento, ne trompez personne, en tous les cas, ne trompez pas les Juifs. Le Congrès juif mondial, l'American Jewish Labor Committee et le Joint réussirent à sauver un grand nombre de Juifs réfugiés en France et à les amener aux États-Unis. Pendant toutes ces négociations, même à un stade plus avancé, a écrit Nahum Goldman dans ses mémoires, je ne cessais de constater qu'il était plus facile de trouver de l'aide et de la compréhension auprès des véritables hommes politiques américains, avant tout auprès du président Roosevelt et du sous-secrétaire d'État, Sumner Welles, qu'auprès des hauts fonctionnaires qu'il était parfaitement impossible de mettre en mouvement, en raison de leur routine bureaucratique et de leur dose d'incroyable indifférence. Alors, on pourrait citer des exemples à l'appel de ce barrage placé par le secrétariat d'État, en particulier Cordell Hull, pour empêcher les Juifs d'émigrer ou d'immigrer aux États-Unis. Pourtant, alors qu'ils étaient en deçà du quorum du chiffre permis, quota, voilà. Un bateau part de France pour aller au Mexique, le Cuenza. C'est Nahum Goldman qui raconte ça dans ses mémoires, parce qu'il a été intéressé à l'affaire. Il doit aller à Tampico. Il arrive à Tampico, mais là on fait savoir que on ne veut pas laisser débarquer les réfugiés. Alors on demande d'aller à Norfolk en Virginie. Et voilà comment se passe la chose. Je racontais à Cordell Hull, a écrit Nahum Goldman dans ses mémoires, que j'avais lu un article sur des matelots anti-nazis qui avaient sauté à l'eau avant d'entrer dans le port de New York pour ne pas devoir retourner en Allemagne. Les gardes-côtes avaient dû envoyer un bateau à leur recherche pour les amener ensuite à Ellis Island, où sont reçus tous les immigrants dont les papiers ne sont pas en ordre. Vous avez tout de suite compris que les Américains ne voulaient pas laisser débarquer ces Juifs qui venaient sur le Cuenza, comme quelques années plus tôt, ils avaient renvoyé, souvenez-vous, le Saint-Louis. Alors Nahum Goldman, qui était un Litvak, un Lituanien, et qui comprenait très bien le problème, « Si vous préférez cette solution, lui dis-je, je vais télégraphier aux passagers de ce bateau, et je vous garantis qu'à Norfolk, ils sauteront tous à l'eau. Le résultat sera qu'il faudra envoyer les bateaux des gardes-côtes pour les sortir de l'eau. Quelques-uns attraperont peut-être une pneumonie, mais en fin de compte, vous devrez faire pour eux ce que vous avez déjà fait pour les marins allemands. Pourquoi voudriez-vous toutefois me contraindre à employer des moyens compliqués, coûteux et dangereux pour la santé ? Cordell Hull me regarda avec colère et me déclara « Vous êtes très cynique, Monsieur Goldman. » Je lui répondis « Je me demande lequel des deux est le plus cynique. » Le secrétaire d'État qui envoie à la mort une centaine de Juifs ou celui qui veut les sauver? L'argument semble à porter, car il finit par me dire avec une humeur évidente, une mauvaise humeur évidente, « Dites au président que s'il prend lui-même la responsabilité de donner ses ordres, je ne soulèverai aucune difficulté. » Les ordres furent donnés, les réfugiés purent débarquer à Norfolk et restèrent quelque temps à Ellis Island jusqu'à ce que leur... À ce moment-là, en 1943, on approche des 5 millions de Juifs assassinés et on discute toujours. En 1943 parvint la nouvelle que la Gestapo de Roumanie, c'est un autre exemple que je vous donne, acceptait de laisser émigrer contre versement d'une grosse somme d'argent un certain nombre de juifs, surtout des enfants. Le secrétaire d'État au Trésor, Henry Morgenthau, avec l'accord de Roosevelt, accepta immédiatement. Malheureusement, le département d'État devait également donner son autorisation. Les négociations avec Cordell Hull et ses subordonnés durèrent si longtemps que l'accord donné, de mauvais gré d'ailleurs, arriva trop tard et qu'on n'a pas pu sauver justement ces juifs de Roumanie. En particulier, il s'agissait de sauver des juifs de Transnistrie. Comme il s'agit d'un séminaire et qu'il n'est pas question de d'éplucher toutes les archives et que je ne suis pas là pour, pour faire le procès, encore que cela vaudrait le coup, le procès des dirigeants américains, à ce stade, je voudrais poser quelques questions. Pour quelles raisons les États-Unis ne sont pas arrivés à sauver tellement, sauver si peu de juifs? Qu'est-ce qui freinait dans la politique américaine pour se décider les dirigeants, comme Roosevelt et autres, à partir en guerre contre le nazisme et d'une façon plus virulente? Et bien à cela, je vois d'abord une réponse toute simple. À ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai relu donc les arguments de Nahum Goldman, et je crois que sur à peu près tous les arguments, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il sera très content de le savoir, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que le premier point qui choquait dans la politique américaine, c'est qu'à l'époque, les États-Unis étaient viscéralement isolationnistes. Et que cela a entraîné, pour ceux qui connaissent l'histoire, des réactions d'antisémitisme. Par exemple, le père Cooling à la radio, on l'appelait le prêtre des ondes. La réaction de Henry Ford, la réaction même surprenante de Charles Lindbergh, celui qui avait traversé l'Atlantique et qui accusait les Juifs de vouloir entraîner l'Amérique dans la guerre. On se moquait pas mal de savoir s'il y avait des victimes, si le chiffre était astronomique, mais les gens s'en foutaient par-dessus, ne voulaient absolument pas de cela, ils ne voulaient pas entrer dans la guerre, parce que 20 ans plus tôt, ils l'avaient déjà fait. Et cela peut expliquer aussi un petit peu pour quelles raisons les Français, en 1940, ont subi une débâcle. Si la guerre de 39-45 était venue 50 ans après celle de 14-18, peut-être cela aurait changé. Mais le français était devenu un petit peu défaitiste, sans le vouloir. Pétain, dit Churchill, était un défaitiste. Et le monde était défaitiste. On parlait de la drôle de guerre, on parle toujours de la drôle de paix dans cette époque. C'était cela. Personne ne voulait se battre. Le français ne voulait pas se battre pour les Tchèques, on ne voulait pas se battre pour le Danzig, personne ne voulait se battre. Vous connaissez le mot admirable de Churchill, quand il y a eu les accords de Munich, il a bien compris qu'à un moment il fallait bien se battre. Vous avez eu le choix entre la honte et la guerre. Vous avez opté pour la honte, mais rassurez-vous, vous aurez la guerre aussi. Les événements historiques ont placé brusquement les États-Unis, sans qu'ils y soient préparés d'ailleurs, dans une position dirigeante qui sent la catastrophe des deux guerres mondiales ne leur aurait été accordée que quelques générations plus tard. Les États-Unis, qui en 1914 n'étaient nullement au centre de la scène politique mondiale, rappelez-vous, c'était encore l'ère victorienne presque, furent précipités dans une situation clé et ils finirent par devenir, après la Deuxième Guerre mondiale, l'une des deux superpuissances. Comme le rappelle Nahum Goldman, ce fut une injustice pour le peuple américain que le temps ne lui fût pas laissé de s'habituer lentement à une situation dirigeante et d'apprendre progressivement, comme les Anglais, comment se mène la politique du monde. Son attitude, fondamentalement, faisait que l'Amérique était surtout préoccupée de se développer elle-même. Son destin fut tout d'abord un peuple, certes puissant, mais intellectuellement provincial, et de devenir, en un temps extrêmement court, une puissance mondiale. Ils ont été, disons, trop vite. Tout le monde a été trop vite, d'ailleurs. Mais voyons maintenant le judaïsme américain. Le judaïsme américain se considérait, par rapport à l'Europe, comme une armée de réserve. La mentalité était complètement différente. Tous les juifs qui arrivaient aux États-Unis avaient subi les pogroms, l'antisémitisme. Ils arrivaient là dans un monde complètement différent. C'est tout juste leur demander une carte d'identité, des libertés. Ils n'avaient jamais connu cela. Ils n'étaient plus dans un monde entouré de ghettos. Ils pouvaient aller librement où ils voulaient. Ils se sont... déconcentrés des choses juives. Il faut parfois des catastrophes pour appeler les juifs à la raison. 67, la guerre des six jours. 73, la guerre de Kippour. Nous connaissons probablement tous quelqu'un dans notre entourage qui a été frappé par cela et revenu peut-être à la vie juive. Et peut-être tout d'un coup monté en Israël. Donc il faut des chocs. Donc le judaïsme américain se considérait comme une armée de réserve dans la lutte pour les droits juifs et la guerre qui se livrait en Europe. Les juifs européens se trouvaient aux premières lignes du front, depuis toujours. À l'arrière-plan se trouvaient les millions de juifs américains, vers lesquels on se tournait dans les moments difficiles pour leur demander du renfort, parfois de l'argent. Et puis, tout d'un coup, il y a eu la destruction de l'avant-garde européenne. Le judaïsme américain fut contraint d'assumer les positions de tête. Il n'était pas préparé, peu habitué à cette position dirigeante. Les juifs américains reçurent cet appel de l'histoire avec une maturité intérieure parfaitement insuffisante. Les juifs américains ont adopté certaines caractéristiques particulières de l'American Way of Life. À la différence des juifs d'Europe, ils sont moins déterminés dans leur réaction par l'idée, ils sont moins déterminés dans leur réaction par l'idéologie que par leurs sentiments. Ils sont plus accessibles aux sentiments, aux slogans qu'à la réflexion. Maintenant, il y a un mot que je voulais ajouter qui me paraît important. C'est que j'ai dit tout à l'heure que l'Amérique est allée trop vite comme première puissance, c'est arrivé trop tôt. Mais je crois que les juifs américains ont été pris de vitesse aussi. Le Congrès juif mondial ne date que de 1936. C'est-à-dire que dans ce siècle, les grandes immigrations vont, si vous voulez, de 1880, l'assassinat du tsar Alexandre II, jusqu'à, disons, 14-18, peut-être même dans les années 20, si vous voulez. Donc, les juifs américains n'avaient pas eu le temps de s'organiser. Tout ce qu'on connaît de l'American Jewish Committee, l'Amnée Brit, etc., le Congrès juif mondial, le Joint, tout ça, ça a été créé sur le tard. Personne ne s'attendait à entrer dans la guerre et surtout d'avoir à répondre aux besoins énormes des juifs européens. Car, je n'ai pas parlé de cela, heureusement que j'y pense, ça serait injuste de ne pas le signaler. On se demande toujours, mais qu'ont-ils fait ces juifs américains? Nahum Goldman dit dans ses mémoires qu'il a été tellement secoué quand il a entendu à la radio, une radio pirate, disons une radio clandestine, un message qui venait d'un ghetto de Pologne, dont il ne dit pas le nom, et qu'il demande, le message s'adressait à lui, à Stephen Weiss, de faire quelque chose, que les juifs d'Amérique fassent quelque chose pour sauver le judaïsme polonais, et qu'il se demandait encore qu'est-ce qu'il pouvait faire, non pas de plus, mais de plus auprès du département d'État américain, qui ne voulait absolument pas laisser entrer les juifs aux États-Unis, parce qu'il y avait deux problèmes. Il y avait la guerre à Hitler, la guerre contre le nazisme, la guerre totale contre le nazisme. Et il ne faut pas oublier que 550 000 juifs américains se sont engagés dans l'armée américaine. 100 000 un peu plus ont été tués. Et j'ai d'ailleurs vu des tombes de juifs sur les plages du débarquement. Parce qu'on mélange les tombes de Magen David, etc. Et puis, 37 000 parmi tous ces juifs, le demi-million de soldats américains, 37 000 ont été décorés pour actes d'héroïsme. Donc, il n'y a pas de couardise des juifs américains, ça c'est sûr. Mais, ils ont manifesté, ces juifs américains. Dès 1933, les avions, pour en parler de ces avions, les avions... en 1914, c'était des petits coucous. Mais en 1939-45, on n'était même pas sûr, d'ailleurs, que l'aviation servirait encore à quelque chose. Mais il a fallu aussi construire des avions opérationnels, ayant un rayon d'action suffisant. Ce n'est pas au début que les Anglais ont réussi à bombarder Berlin. Il a fallu un certain temps pour arriver un peu plus loin dans l'Est de l'Europe et avoir un rayon d'action suffisant pour faire l'aller et le retour. Rappelez-vous de ce coup de génie de l'Angleterre, bombardant les barrages de la Roure et retournant en Angleterre. Bien sûr, il y en a qui ont laissé des plumes, mais retournant en Angleterre. Donc ça ne se faisait pas, comment dirais-je, comme cela. Il faut comprendre que la Seconde Guerre mondiale, c'était un tout. On voulait nous sauver nos Juifs, mais on n'y réussissait pas comme cela et on a eu du mal dans certains points. J'aime encore un autre point que je voudrais dire, que je n'ai pas parlé ce soir, et qu'il faut le dire. C'est la création par Roosevelt le 22, j'ai inscrit ça ici, le 22 janvier 1944, donc très tard, c'était très tard. Oui, c'est ça. Roosevelt a annoncé la formation du War Refuge Board, c'est-à-dire la commission pour étudier les. La commission de sauvetage des réfugiés, seulement le 22 janvier 1944. C'est donc très tard, très très tard. Et je crois que là, il faut dire que c'est avec ce comité que les choses ont été beaucoup mieux. Il y a eu des actions remarquables. Je tiens à signaler, par exemple, que les Juifs américains, qui donnaient beaucoup d'argent pour cela, ont réussi à sauver quelques Juifs en Roumanie. À ce moment-là seulement, il a été possible, et c'est ce qu'il fallait faire d'ailleurs depuis le début, il fallait non pas s'attaquer à l'Allemagne, mais s'attaquer aux satellites qui étaient beaucoup plus faibles et les menacer de représailles au lendemain de la guerre s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur disait maintenant. Et c'était le cas, par exemple, pour la Roumanie. Ira, je crois que c'est Fechman, a réussi, grâce... Ira Fechman était considéré comme le représentant de Roosevelt à Istanbul, et grâce à ce titre, a réussi, avec menace et argent, a réussi à sauver quelques Juifs de Roumanie. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sauver des Juifs d'un peu partout, et je voudrais encore signaler, aussi grâce à l'apport du Joint, donc des Juifs américains qui ont donné des millions de dollars pour sauver des Juifs, eh bien, on ne peut pas cacher sous silence le rôle du futur pape Jean XXIII, qui était à ce moment-là le cardinal Roncalli, et qui était le nonce apostolique à Ankara, et qui a aussi sauvé 25 000 Juifs. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est à la fin de la guerre qu'on a réussi, seulement à la fin de la guerre, qu'on a réussi à sauver une goutte d'eau. Et où, comme dirait d'ailleurs Manès Perber, une larme dans l'océan. Pas plus. Je crois que j'ai laissé, je ne me refais pas, si vous voulez poser des questions.
Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que les Juifs américains se sont rendus compte assez tôt de l'attitude spécifique, enfin de l'attitude du accord de...
Non, 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 ça, ça a pris du temps. Vous savez, on ne se rend pas compte tout de suite de ces choses-là. On s'en rend compte, je crois que c'est... ne pouvait s'en rendre compte que quelqu'un qui travaillait dans l'entourage.
Mais justement, il me semble que Maurice Morvenco probablement aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Il aurait peut-être été plus...
plus efficace.
S'il avait réagi plus tôt contre
ça. Oui, mais c'est exact. Et vous savez que Morvenco, d'ailleurs...
D'après le livre de Morvenco, on se rend bien compte que c'est...
C'est Cordell Hull. Cordell Hull, c'est sûr qu'il y a. C'est lui. Quand j'ai travaillé cette conférence, je bouillonnais, comme on dirait, contre Cordell Hull. Je crois qu'on aurait dû faire un procès après la guerre, parce qu'il n'y a aucune raison de. On a fait un procès contre les nazis, parce qu'on savait que les nazis avaient été des criminels de guerre, mais il y avait ceux qui ont péché par omission, comme a dit d'ailleurs Ernst Fischer, le représentant tchécoslovaque. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens en Europe occidentale qui, par indifférence, et qui étaient à des postes stratégiques, on pourrait dire, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je pense, d'ailleurs, j'ai pas compris, d'ailleurs, tout le long du livre d'Arthur Moore, j'ai même pas compris pour quelle raison Roosevelt a conservé Cordell Hull. Il était tout le temps... Il sentait qu'il y avait du tirage, il aurait pas dû le conserver.
Il y a une question qui se greffe tout de suite là-dessus. En fait, le président avait tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui l'empêchait?
Oui, ça aussi, c'est exact, ça aussi.
Sans avoir à se démettre d'État, simplement lui donner un ordre. C'est la même question que vous avez pour cette soulevée.
C'est ça, exactement. Oui.
À laquelle on n'a pas de réponse.
On n'a pas de réponse, non, non. C'est surprenant de la part de Roosevelt. Bon, je crois que d'abord c'était un infirme, il était malade à la fin de sa vie, et je crois que c'est le tort qu'on a. Mais vous savez, regardez bien aujourd'hui, après la guerre du Vietnam, vous savez, après l'histoire de Watergate, etc., le président n'a pas toujours, on croit toujours qu'il a le pouvoir. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il y a des moments où il y a des tirages. Dans toute administration, on a du tirage. C'est normal. Mais aux États-Unis, on n'aurait jamais cru cela possible. Et pourtant, c'était possible. Regardez les rapports sur la CIA, tout ça, maintenant qu'on dévoile, etc. Tout le micmac qu'il y avait entre certaines administrations. Le malheur aux États-Unis, c'est que je crois que Nahum Goldman a dit très bien la chose. Et d'autres diplomates l'ont dit. Et tiens, je voulais dire encore une chose à propos de diplomatie, je vous le dirai dans deux minutes. Eh bien, Nahum Goldman a très bien dit que les Américains n'étaient pas formés pour cela. Et je vais donc donner ma deuxième idée, c'est que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'avais préparé pour le dire, c'est que les Américains, ils n'étaient pas préparés non plus, ils n'avaient pas d'école de diplomate, de diplomatie. C'était impensable d'avoir mis, par exemple, le père Kennedy, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la nuit de cristal, le père Kennedy, on l'a bombardé ambassadeur des États-Unis en Angleterre au moment de la nuit de cristal jusqu'en 40, et quand il y a eu le Blitzkrieg, il a écrit à Roosevelt, l'Angleterre est à genoux, etc., c'est plus la peine d'investir en Angleterre, etc. C'est très connu, cela. Donc, on mettait tout simplement, on prenait comme ambassadeur ou comme représentant de l'administration américaine des gens qui étaient fortunés. La fortune aux États-Unis, c'est la porte ouverte, comment dirais-je, à toutes les aventures diplomatiques et autres. Et c'était inadmissible. On ne verra pas ça en France, par exemple. On ne peut pas cela. Il y a des écoles maintenant en France, même en Angleterre. Il faut sortir de London School of Economics ou d'Eton, etc. Il faut avoir une certaine valeur intellectuelle et de former à la fonction publique. Enfin, je crois que du moins qu'on peut penser que... Non ? Non, vous êtes l'avis contraire, jadis.
L'attitude, non, mais l'attitude américaine qui est pragmatique, qui donne à quelqu'un qui a réussi économiquement ou autrement dans la vie sociale une position dans la vie politique, et ça s'est justifié. Par contre, je ne sais pas si vous appréciez unanimement la réussite des anciens élèves.
Ce que je pensais aussi, mais enfin, j'ai quand même apprécié.
L'école polytechnique, je
sais
pas si
oui. Mais j'apprécie quand même une chose, vous voyez, c'est une chose que la France a fait depuis De Gaulle. Et je crois que c'est pris sur le modèle que vous citez, le modèle américain, peut-être même un petit peu anglais. C'est que Pompidou et Raymond Barre, quand Raymond Barre est arrivé au pouvoir, j'ai tout de suite dit à ma femme, tiens, il suit la même ligne que Pompidou. Il n'a jamais été parlementaire. Il n'a jamais été dans une... À part le vice-président peut-être d'une commission européenne, etc. Il n'était pas dans le circuit politique. C'est un homme neuf. Il vient de l'extérieur. Pompidou était un homme aussi qui avait réussi dans les affaires. Il avait été le président du conseil d'administration de Rothschild, etc. Donc, c'est d'accord. Parfois, ça réussit. Mais, écoutez, en Europe, on a peut-être eu moins de désillusions que... C'est difficile à dire. En tous les cas, le fait est là que les États-Unis n'ont pas fait tout ce qu'il fallait à certains moments parce qu'ils étaient barrés par le... Je ne sais pas, en français, on dirait qu'il était obtus, Cordell Hull, ou...
Pas... Non, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça.
C'est encore plus grave.
Je crois
ah,
que
vous êtes
grave.
Dentiste, vous.
Comment ?
Vous êtes dentiste.
Oui, mais c'est plus grave, parce que ça représente tout un courant de pensée définitive, dont répare, je crois, Raymond Poliakov, c'est celui de toute une connexion, de toute une idéologie raciste qui existait dans tout l'Occident, en définitive. Moi, je me souviens avoir lu, quand j'avais 16 ou 17 ans, « À quoi tient la supériorité des anglo-saxons, par exemple ?» Il n'était pas tellement éloigné, n'est-ce pas, Darwin, comment dire, l'idéologie néo-darwin, enfin, darwinienne, entendue au sens
politique.
Avait cours, vous voyez un peu Lindbergh. Il y avait Lindbergh, il y avait, comment s'appelle-t-il, le docteur Carrel. En Angleterre, c'était à peu près pareil. Et ce, dans les classes dirigeantes anglo-saxonnes. Je pense que c'était...
Oui, mais je crois qu'il faudrait peut-être faire une étude, peut-être ça existe d'ailleurs, sur Cordell Hull. Moi, je crois que c'est Cordell Hull qui était le personnage central. Là. Oui.
Cordell Hull, c'est Madame Hull.
Madame.
Madame
Hull. Il paraît qu'elle était juive. Vous savez que c'est souvent le contraire qui se passe. Hein. Oui, non, c'est vrai. Faudrait voir, faire une étude sur Cordell Hull. Moi, je n'en ai pas faite. Mais je crois quand même que c'est le personnage central. Je ne sais pas si on aurait sauvé plus de juifs, mais on aurait probablement une politique plus souple. Ça aurait peut-être incité les gens
à... Déjà, avant la guerre, ça se voyait au moment de la conférence d'Évian.
Oui, mais j'ai vu un plan, par exemple, je ne sais plus de qui prévoyait, je crois que c'est une organisation juive américaine, qui prévoyait que si l'administration américaine avait été plus souple, il prévoyait d'envoyer de l'argent dans les territoires occupés, etc., pour sauver celui-ci, celui-là, envoyer des colis dans les camps de concentration, etc. Vous savez, naturellement, aujourd'hui, on a le recul, on sait ce qui se passait, etc. Mais il faut dire un point un positif. C'est que le World Refugees Board a fait une chose remarquable. Les Allemands ne donnaient pas les noms des déportés. Et même quand la Croix-Rouge se présentait, ils tournaient autour du pot. Eh bien, une des organisations que je viens de citer à envoyer des colis dans les camps de concentration avec des quelques noms qu'ils avaient. Et ils ont, avec accusé de réception, s'il vous plaît. Et ils ont, en retour, ils ont eu d'abord la signature, l'accusé de retour, et en plus, ils avaient ajouté quelques noms de déportés qui avaient aussi mangé de ces colis-là. Et c'est comme ça qu'on a étendu, c'est arrivé jusqu'à 50 000 noms. On a pu récupérer comme ça des noms jusqu'à 50 000. On téléphonait aux familles pour savoir si c'était bien cela. Les familles se déplaçaient pour voir les signatures. Et c'est comme ça qu'on a réussi à dénicher, grâce à ces comités de soutien, de sauvetage américains, enfin, financés très souvent par des juifs, eh bien, c'est comme ça qu'on a pu avoir une certaine idée sur certains déportés. Et je dis 56 000, c'est pas si mal que ça. Je crois que c'est très dur aujourd'hui d'admettre que les Américains étaient fautifs. Je crois qu'il y a une culpabilité, peut-être pas, c'est pas le même étage, comme dirais-je, que la culpabilité nazie, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui gêne et qui gênait Arthur Moss. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'Arthur Moss s'est tué en avion il y a 5 ans, quelque chose comme cela, au-dessus de la Yougoslavie, et il n'a pas écrit d'autres livres. Il était, directeur d'une chaîne de télévision aux États-Unis. Et c'était vraiment, son livre a fait un grand boom, parce que personne n'aurait pensé écrire sur du moins critiquer l'administration américaine, comme il l'a fait. Il a eu accès aux archives, et je ne suis pas sûr que si le problème s'était posé en Europe, qu'il aurait eu accès aux archives de la même manière. Parce qu'en Europe, on ne peut pas avoir accès aux archives. Vous savez, en France, il faut attendre 30... D'abord, avant, c'était 50 ans, maintenant, c'était ramené à 30 ans, et on ne peut pas toujours écrire sur le présent. Aux États-Unis, c'était possible, parce que les Américains sont plus souples à ce point de vue-là. Et j'en ai fait moi-même l'expérience pour la Lune Cristal, quand on a consulté les archives des États-Unis, à partir des archives nationales ou celles de Library of Congress à Washington, etc. Je crois qu'ils sont en général, ils étaient très souples et très coopératifs. Mais je ne voudrais pas être injuste parce que les Allemands aussi étaient coopératifs et on se demandait bien pourquoi. Donc je crois que les jugements devant l'histoire, c'est quelque chose de très délicat. Je ne veux pas dire que tout le monde était coupable, mais il y a la question, naturellement, qu'on entend souvent, personne n'est venu nous sauver. Vous savez, on entend souvent ça, même en Israël. C'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, on peut pas dire. Il y a eu la longue lignée de ce qu'on appelle les tzadiké olam, les justes des nations, et qui, j'assure, il y en a une belle liste de ces gens qui, comme le pasteur Lichtenberg, déjà en 43, au moment déjà, il avait 80 ans, était déporté pour avoir dit dans son diocèse « Prions pour les juifs et les non-ariens ». Et alors, il y avait des gens de la Gestapo qui sont venus l'arrêter, qui étaient là, qui l'ont arrêté. Et il avait 80 ans, comme on dirait 4 fois 20 ans. Et on lui a demandé de se rétracter. Il a dit non, mais il dit, alors, on lui a demandé « Pour quelle raison vous avez besoin de dire ça ?» Il dit « Parce que j'ai honte de ce que nous avons fait aux juifs au moment de la nuit de cristal en 38. » Et il est mort sur le chemin de Dachau. Il y en a comme ça, toute une longue lignée. On ne peut pas oublier tous ces gens qui n'étaient pas juifs et qui se battaient pour une cause qui n'était pas la leur, mais qui était celle de l'homme. Mais malheureusement, ils n'étaient pas nombreux. Et je crois que c'est aussi vrai aux États-Unis. Je sais que Stephen Weiss et d'autres dirigeants américains, après la guerre, disaient « Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On faisait des manifestations, on faisait tout. » On envoyait de l'argent, on bousculait l'administration américaine. Et c'est vrai, quand on lit, il faut relire le livre de Arthur Morse, ça prouve que les dirigeants américains étaient au port de l'administration, ils secouaient Roosevelt, secouaient Cordell Hull, et les bagarres de Nahum Goldman et d'autres. On sait que c'était vrai. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre ? Alors quelqu'un a dit, il fallait vous asseoir devant la Maison Blanche. Et c'est vrai quand on voit aujourd'hui, avec les brigades rouges, et tous ceux qui en un tour de main, obtiennent gain de cause pour des choses moins nobles, etc. Il dit qu'il fallait faire ça. Mais on avait une autre mentalité. Et je dirais même qu'on avait une autre éducation. C'est très difficile. C'est très difficile comme problème. Mais je crois que si vous continuez ce séminaire sur la Shoah, sur l'Holocauste, vous pouvez essayer d'entendre les réponses théologiques. Vous savez, la théologie de l'Holocauste, je crois que c'est Manitou qui va parler de ça ou d'autres. Tout le monde discute là-dessus. J'ai aussi lu un article pour préparer ce séminaire. J'ai lu un article paru il y a un an dans Dispersion et Unité, qui est un périodique de la Sortout, je crois, ou de l'Istal Rouf, enfin bref, en Israël, et qui est en français, enfin il y a une édition en français. Il y avait un article du professeur Jacob Katz, dont j'ai cité tout à l'heure le nom, et qui est un ancien professeur des États-Unis, et qui est professeur d'histoire contemporaine, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Eh bien, il a un article qui s'intitule « L'Holocauste était-il prévisible ?» Alors, chaque historien a sa propre thèse. Il y en a qui vont vous dire oui, quand on voit la montée du nazisme, on voit l'antisémitisme, que ça atteignait son paroxysme après tant d'années, etc. Bon, c'est vrai, mais personne, et d'ailleurs, je crois, Nahum Goldman le dit d'ailleurs tout à fait, comme on dit, peu fait rouge dans son texte, dans ses mémoires, ça serait mentir que de dire qu'on savait ce qui allait arriver aux Juifs. On savait qu'on était bousculé, on savait qu'on était humilié. On n'aurait jamais pensé qu'on allait être réduit en savonnette. Enfin, ça, personne ne pouvait l'imaginer. C'est un crime, comme disait Manuel, je crois, il dit que c'est le crime impossible, c'est le crime incroyable. Ça dépassait l'entendement humain. Et c'est pour cette raison que les gens ne voulaient pas y croire. Ça dépassait l'entendement humain. Aujourd'hui, on viendrait annoncer des choses semblables, ou peut-être un peu plus, au Cambodge ou ailleurs, on le croirait plus volontiers. Mais à l'époque, personne n'aurait imaginé cela. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné dernièrement. Un de mes amis, un médecin, m'a dit « Écoute, il y a un confrère de Lyon qui voudrait que je lui montre, que je lui envoie des photos sur les chambres à gaz. » J'ai dit « Pourquoi tu as besoin de photos sur les chambres à gaz ? Ou pourquoi a-t-il besoin de photos sur les chambres à gaz ?» Il dit « Parce qu'il aimerait y croire. » Il dit « Les déportations, les camps de concentration, tout ça, il accepte. Il dit que c'est plausible. » Il dit « Les chambres à gaz, il dit c'est intolérable. » Techniquement, il dit « C'est impossible. » Et voilà. C'est-à-dire que je lui ai fait une réponse très curieuse, d'ailleurs, vous allez voir, tout à fait scientifique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. Et c'est parfois, c'est vrai, on peut agir comme ça. Si vous me permettez, bien, j'ai une kippa sur la tête, je vais vous raconter. C'est que quand Moïse, Moshe Rabbeinu, était en haut du Sinaï, Dieu lui a dit « Descends ton peuple à pécher, etc. » Pourquoi il n'a pas cassé les tables de la loi en haut ? Pourquoi il les a gâtés en bas ? Il pouvait très bien les casser en haut. D'ailleurs, ça aurait fait moins de bruit. Mais enfin, il les a cassés en bas. Alors, c'est Sforno, qui était un médecin italien, qui a eu la bonne réponse. Il dit tout simplement parce que en bas, il a vu. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a des choses qu'on doit même croire. Quand nous avons des tas d'amis, des tas de parents, tout de même, Simon Wiesenthal a perdu 82 membres de sa famille, on y croit parce qu'on ne les voit plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une preuve écrite comme quoi il a perdu 82.